autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Hugo Violas à la réalisation. L'erreur est humaine, c'est bien connu. Mais quels sont les mécanismes psychologiques qui nous font commettre des erreurs? Sommes-nous victimes de notre cerveau? Le monde évolue sans cesse et très vite, mais les capacités mentales de l'être humain restent inchangées. Il y a tellement de données à gérer que nous sommes débordés. Si bien que les machines deviennent parfois plus fiables que les humains. On utilise déjà des algorithmes pour l'économie, l'éducation, ou les politiques de santé publique. Quels sont les avantages, mais aussi les dangers de cette invasion des ordinateurs dans les prises de décision? Pourquoi l'erreur est humaine et pourquoi nous risquons d'être bientôt dépassés par les machines? C'est notre question du jour. Bienvenue. Vincent Berthet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lorraine et chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne. Vous êtes chercheur en sciences cognitives et vous venez de publier « L'erreur est humaine » aux éditions du CNRS, un ouvrage avec pour sous-titre « Aux frontières de la rationalité ». Donc avant de venir au cœur du sujet de votre livre, parlez-nous un petit peu de votre discipline, les sciences cognitives. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors les sciences cognitives, c'est un mélange de plusieurs disciplines qui ont le point commun de toutes s'intéresser au comportement humain et au cerveau. Donc ça regroupe à la fois la psychologie, les neurosciences, l'éthologie,
la philosophie. C'est-à-dire l'étude du comportement. Hein.
Exactement, c'est l'étude du comportement dans toutes ses dimensions, aussi bien dans ce qui est observable que dans les sous-bassements neurologiques.
Et donc c'est une science interdisciplinaire, et dans ce livre vous vous intéressez à la raison. Nous croyons être des êtres doués de raison, rationnels, mais ce que vous prouvez c'est que notre rationalité est limitée, notre cerveau commet sans cesse des erreurs, et donc vous décortiquez ces erreurs. Ces erreurs, à quoi elles sont dues exactement ?
Et en fait, le concept central du livre, c'est bien celui-là, c'est celui de rationalité limitée, qui avait été proposé par un économiste dans les années 50-60, qui s'appelle Herbert Simon, et qui s'était érigé contre le modèle standard de l'époque, qui est l'homo economicus, cet agent rationnel parfait qui prend des décisions rationnel. Et Simon avait compris que les humains, les vrais individus, leur rationalité à eux, elle est limitée. Et elle est limitée en raison de biais psychologiques qui affectent nos décisions.
Vous dites qu'il y a en gros deux systèmes mentaux. Le premier système qui correspond au processus automatique et qui délivre de façon spontanée et rapide des impressions, mais qui ne sont pas nécessairement verbalisables. Et le deuxième système qui correspond au processus contrôlé, la raison, le jugement et la verbalisation. Et que, au fond, nous fonctionnons surtout avec le premier système, un peu impulsif en fait.
Ouais, c'est exactement cela. C'est ce qu'on appelle en psychologie la théorie du double système. Suivant lequel nous avons deux systèmes mentaux, le système 1 et le système 2. Et c'est quelque chose qui a été popularisé notamment par Daniel Kahneman dans son ouvrage qui s'appelle d'ailleurs système 1, système 2. Et le système 1, c'est ça, c'est ce mode pilote automatique de l'esprit qui regroupe les émotions, les intuitions, les impulsions. Et c'est le système suivant lequel on fonctionne la très large majorité du temps.
Notre cerveau nous piège en quelque sorte. Vous donnez beaucoup d'exemples très concrets, des exemples de la vie de tous les jours. Il y en a un notamment que vous citez qui vous a marqué quand vous étiez étudiant, je crois. Ce sont des filles qui montent dans le bus. Racontez-nous cela.
Ouais, alors elles montent. J'étais en première année à l'époque à la fac, et puis ça m'avait interpellé. Alors j'avais pas évidemment le concept scientifique derrière, mais voilà, deux jeunes filles, deux étudiantes montent à un arrêt. Et puis il se trouve que leur destination, c'était deux arrêts après. Et au moment où elles devaient descendre. L'une d'elles dit « Ah oui, mais on va quand même pas descendre maintenant parce qu'on a payé notre ticket. » Et ce comportement, cette remarque m'avait interpellé à l'époque et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et c'est un exemple de biais cognitif. C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables.
Des coûts, c'est-à-dire le coût, c'est
le coût du ticket.
Et au fond, elles vont se retrouver encore plus loin que si elles n'avaient pas pris le bus, mais juste pour rentabiliser le ticket, elles vont être punies par un éloignement. Mais elles préfèrent ça plutôt que d'avoir payé un ticket uniquement pour deux petites stations.
Exactement, c'est ça. Et ça marque ce genre de décision au quotidien. Ça marque vraiment la différence entre les vrais individus humains et l'homo economicus. Un homo economicus ne ferait jamais ça.
Oui, mais ça, c'est ce genre de choses que nous faisons assez souvent. Par exemple, si on va au cinéma, on prend un ticket, le film ne nous intéresse pas, mais on va rester quand même parce qu'on a payé.
Exactement. Alors que, rationnellement, le coût du ticket de cinéma étant irrécupérable, quoi qu'on fasse, on ne pourra pas récupérer le coût. Donc, si le film est vraiment ennuyant, on devrait quitter la salle.
Vous donnez aussi beaucoup d'autres exemples, notamment cet exemple d'évaluation des probabilités. Alors, on sait tous, hein, les pouvoirs publics disent par exemple que 90% des cancers du poumon sont provoqués par le tabac. Et vous dites quelque chose qui n'est pas forcément politiquement correct, c'est que c'est une probabilité qui est biaisée. Donc, les pouvoirs publics utilisent en quelque sorte une erreur de raisonnement.
Exactement, c'est vrai. C'est un des exemples les plus frappants, c'est un des messages utilisés sur les produits du tabac. Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10. Et en faisant cela, en fait, l'individu lambda, ce qu'il comprend, c'est que s'il continue de fumer, il a 90% de chances de développer un cancer du poumon. Alors qu'en fait, la probabilité pertinente, c'est la probabilité inverse. C'est si je continue de fumer, quelles sont les chances que je développe un cancer du poumon? Or, cette probabilité-là est nettement inférieure à 90%. C'est ce que je cite dans le livre. La probabilité réelle d'avoir un cancer du poumon si on fume, c'est inférieur à 10%.
Et oui, c'est-à-dire, il ne faut pas confondre. 90% des cancers du poumon sont provoqués par le tabac, mais la probabilité inverse, moins de 10% des fumeurs développent un cancer du poumon. Et
exactement.
Les pouvoirs publics ont intérêt à
rapporter. Voilà, ils jouent sur une confusion, et en l'occurrence, notre confusion a assimilé ces deux probabilités.
C'est un peu comme lorsqu'on dit que 100% des joueurs du loto ont tenté leur chance.
Exactement, en fait, ce sont des messages qui jouent sur le système 1 et sur le fait que le système 1 comprend les choses de façon très intuitive par association, et en l'occurrence on assimile des probabilités qui sont en fait très différentes.
Un autre exemple d'erreur cognitive que vous citez, c'est la confusion entre cohérence et rationalité, puisqu'on cherche du sens dans la vie qui nous entoure. Vous donnez un exemple, si on met des lettres, enfin pas des lettres, hein, des morceaux d'écriture un peu désordonnés, si on les insère au sein des lettres A et C, on va lire B. Mais si on les insère entre les chiffres 12 et 14, on va lire 13. Donc on est influencé par le contexte.
Exactement. C'est un des grands principes du fonctionnement psychologique, c'est que le cerveau humain cherche à construire du sens en permanence. Il fait sens des stimulations dans l'environnement, de ce qu'il voit. Et c'est pour ça qu'un même stimulus, une même figure peut être interprétée de façon différente en fonction du contexte. C'est ce qu'on appelle des effets de contexte, et c'est quelque chose qui caractérise très largement le fonctionnement psychologique.
Donc il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Vous citez le philosophe Bertrand Russell qui disait que ce que les hommes veulent, en fait, ce n'est pas la connaissance, mais la certitude. C'est quelque chose, une phrase qui vous inspire dans votre travail.
Hein. Qui m'inspire beaucoup, parce qu'en fait, c'est ce principe qui inspire le storytelling, ce qu'utilisent les communicants pour faire passer des messages.
C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est exactement?
C'est-à-dire, le storytelling, c'est diffuser un message, une idée, sous la forme d'une histoire. Parce que le cerveau, fondamentalement, ce qu'il comprend, c'est des histoires, des narrations. Et rien de tel pour faire passer, c'est pour diffuser une idée que de l'enrober dans une histoire qui va tout de suite interpeller le cerveau.
Même si c'est une idée fausse.
Exactement. Et comme Russell l'avait compris dans cette citation, c'est ça, c'est que nous privilégions la cohérence des narrations.
Si l'histoire est belle, peu importe que l'information au sein de l'histoire soit fausse.
Exactement, parce que ce que le cerveau va retenir, c'est ça, c'est la cohérence, et ce qui apporte le plus de cohérence, ce sont les narrations, ce sont les histoires.
Autour de la question avec Vincent Berthet, L'erreur est humaine, son livre aux éditions du CNRS. Eminem, Brainless. I walk around like a space cadet, place your bets, who's likely to become a serial killer, case of Tourette's, fuck, can't take the stress, I make a mess as the day progresses, angry and take it out on the neighbor's hedges, like this is how I cut your face up bitches, with these heads trimming scissors with razor edges. Imagination's dangerous, it's the only way to escape this mess and make the best of this situation, I guess. Cause I feel like a little bitch, this predicament's despicable, I'm sick of just getting pushed, it's ridiculous. I look like a freaking wuss, a pussy, this kid just took my stick of liquor rush and threw my sticker books in a picker bush. I wanna kick his tush, but I was six and shook, this fucker was 12 and was 6 foot with a vicious hook. He hit me, I fell, I got back up, all I did was book. Now that's using your head. Mama always said, if you had a brain, you'd be dangerous. A brain, you'd be dangerous. Could be wrong. I'ma grow one day to be famous, and I'ma be a pain in the ass. I'ma be the bomb. I'ma use my head as a weapon. Find a way to escape this insaneness. I always said, so if you had a brain, you'd be dangerous. Guess it pays to be brainless. Fast forward some years later, a teenager. This is fun, sweet. I just got jumped twice in 1 week. It's complete. It's usually once a month. This is some feat I've accomplished. They stumped me into the mud. Gee, for what reason? You stumped me? But how do you get this shit beat out of you? Be down and be upbeat when you don't have nothing. No valid shot at life. Chance to make it a succeed. Cause you're doomed from the start. It's like you grew up on Junk Street. From Junk Street. Wonder if I could just get my head out my ass. I could accomplish any task. Practicing trash talking in a trance. Locked in my room, yeah, but I got some plans. Mama, these damn rhymes are falling out of my pants pocket. I can't stop it. And I'm starting to blend in more. School, this shit helps for sure. I'm getting more self-assured than I've ever been before. Plus, no one picks on me anymore. I done put a stop to that. Threw my first punch in the story. Still in my skull's a vacant empty void. Been using it more as a bin for storage. Takes some inventory in his gourd. There's a Ford engine door. Hing syringe and orange. An extension cord and a ninja sword. Not to mention four linchpins and a stringent sword. Ironing board, a bench, a wrench, a oar, winch, an attention whore. Everything but a brain. But domes off the fucking chain like an independent store. Something's wrong with my head. Just think if I had a brain in it. Thank God that I don't, cause I'd probably be dumber. Cause mama always said, if you had a brain, you'd be dangerous. A brain, you'd be dangerous. Could be wrong. I'ma grow one day to be famous. And I'ma be a pain in the ass. I'ma be the bomb. I'ma use my head as a weapon. Find a way to escape this insaneness. Mama always said, so if you had a brain, you'd be dangerous. Just a place to be brainless. Autour de la question, nous nous intéressons aujourd'hui à l'origine des erreurs humaines avec le chercheur en sciences cognitives Vincent Berthet. Eminem qui chante Brainless sans cerveau, aujourd'hui nous nous intéressons non pas à l'absence de cerveau, mais justement à ces erreurs qui découlent du fonctionnement de notre cerveau. Ça, c'est assez étonnant que le cerveau fabrique lui-même de l'erreur.
Alors, le cerveau fabrique de l'erreur aujourd'hui parce que nous évoluons dans un environnement notamment marqué par de la complexité de l'information d'abondance. Mais ce qui n'était pas le cas à une époque lointaine, l'époque des chasseurs-cueilleurs, où l'homme évoluait dans un environnement très naturel, dans la savane, où sa survie dépendait de la chasse et de la cueillette. Donc ce qui produit aujourd'hui de l'erreur produisait à l'époque, au contraire, des avantages adaptatifs.
Ah oui, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde a évolué beaucoup plus vite que notre cerveau, c'est ça que vous...
Exactement, dites. Et puis alors il y a une citation que j'aime beaucoup, que je cite dans le livre d'un biologiste qui s'appelle Edward Wilson, et qui résume très bien cette idée de décalage. Il dit « Nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales, et une technologie divine. » Donc voilà, et aujourd'hui ce qui pose question, c'est ce décalage entre le fonctionnement du cerveau, notre environnement, les institutions et puis les nouvelles technologies.
C'est-à-dire que il y a tellement de données à gérer, ça va tellement vite et de plus en plus vite que notre cerveau ne suit plus, n'arrive plus à suivre.
Le cerveau et les propriétés du cerveau Donc ce qui apparaît aujourd'hui comme des biais cognitifs ne sont plus vraiment adaptés à cet environnement marqué par une grande complexité. Prenons par exemple les crypto-monnaies. La blockchain.
C'est-à-dire donc ces monnaies.
Voilà, décentralisées, voilà, qui disruptent les contrats, le système bancaire.
Disrupte, c'est un terme technique.
Oui, voilà.
En français, ça veut dire quoi?
Ça veut dire bouleverse. Bouleverse complètement, change la donne. Et aujourd'hui, la plupart des gens sont incapables de comprendre ces nouvelles technologies.
Donc on ne peut s'en sortir qu'avec les ordinateurs. C'est ça que vous voulez dire, mais ça fait peur.
Ça peut apparaître comme quelque chose d'effrayant parce qu'on a quelque part le sentiment de perdre le contrôle sur des choses que nous avions l'habitude de contrôler. Donc déléguer une part des décisions, une part des responsabilités aux machines, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour nous.
Vous dites dans votre livre, et vous expliquez, hein, que les experts, ces fameux experts qu'on voit sur tous les plateaux télé, au fond, ils font autant d'erreurs, voire plus que le commun des mortels en train de discuter au comptoir d'un bar.
Exactement, en fait, ça renvoie aux travaux d'un universitaire américain qui s'appelle Philip Tetlock, qui a beaucoup étudié la validité de l'expertise, que ce soit en politique, en finance, en médecine. Et en fait, il apparaît que les experts tirent leur légitimité d'un biais cognitif qui est le biais de rétrospection.
C'est-à-dire
le fait de pouvoir commenter a posteriori les faits, avec beaucoup d'assurance et de confiance, donne l'impression que ces personnes sont capables de prédire le futur.
Oui, on peut toujours expliquer le passé. Hein.
Exactement.
Ça, c'est facile, tout le monde peut le faire.
Exactement.
Donc ils viennent pour expliquer, vous expliquez par exemple après le référendum pour la Constitution européenne
en 2005,
les analystes étaient tous venus pour prédire que c'était, pour expliquer que c'était évident, que le non allait l'emporter, mais aucun ne l'avait prédit avant les élections. Avant le référendum.
Exactement, personne ne l'avait vraiment prédit. On a un exemple récent avec la fameuse crise financière de 2007-2008. Et puis, pour les événements sportifs, c'est pareil, de la même façon. Et les analystes, en général, tirent leur légitimité du fait qu'ils sont très bons à commenter a posteriori.
Ils expliquent le passé, donc on croit qu'ils sont bons, qu'ils ont des analyses pertinentes. Mais finalement, ça ne vaut pas grand-chose, puisque la seule analyse pertinente serait celle qui permettrait
d'anticiper. Et quand on regarde de façon scientifique, si vraiment ils sont vraiment meilleurs que la plupart des individus dans la prédiction, eh bien on constate que c'est pas le cas.
On va venir au cœur du sujet qui est en même temps le plus angoissant d'une certaine façon, c'est-à-dire les machines, les ordinateurs peuvent-elles faire moins d'erreurs que les humains? Et tout a commencé dans cette histoire avec le baseball. Partons dans le monde du baseball.
Il y a des équipes riches et il y a des équipes pauvres. Ensuite, il y a facilement 15 mètres de merde. Et en dessous, il y a les...
Bienvenue à Oakland.
Mon boulot est d'emmener cette équipe jusqu'au championnat. J'ai besoin de plus d'argent.
On va pas rivaliser avec 120 millions de budget.
Il faut qu'on change d'approche.
Votre objectif devrait pas être l'achat de joueurs. Il devrait plutôt être l'achat de victoire.
Voici 25 joueurs qui sont délaissés. Comme des vilains petits canards. Dedans, il y a une équipe de championnat, une qui est dans notre budget.
Qui c'est le gosse?
Le gosse, c'est le manager général adjoint.
On va secouer le cocotier.
Dis-le.
Ah oui, c'est la nouvelle orientation des As d'Oakland.
On peut pas monter une équipe avec un ordinateur, Bill.
S'adapter ou s'éteindre.
C'est un extrait du film Le Stratège de Bennett Miller. Cette différence entre les décisions prises par des humains et les décisions prises par des machines a commencé dans l'histoire des technologies avec un match de baseball. Expliquez-nous cela, Vincent Berthet.
Oui, alors tout à fait. Ici, on fait référence à Moneyball, donc qui a donné lieu à un film qui en
Moneyball,
français s'appelle Le Stratège. Et Moneyball, donc à la base, c'est un livre publié en 2003 par Michael Lewis, qui a écrit beaucoup d'autres best-sellers, hein, notamment le Big Short, Le Casse du siècle, et qui a été donc qui a donné lieu à une adaptation cinématographique. Et alors, de façon très surprenante, Cette rivalité entre les décisions humaines des experts et les décisions fondées sur des algorithmes a été mise en évidence par le baseball.
Mais concrètement, un match de baseball, l'ordinateur il n'a rien à voir là-dedans. Alors comment ça s'est passé ?
En fait, ça s'est passé au niveau du recrutement des joueurs. Le manager de l'équipe de baseball en question, qui sont les Oakland Athletics, disposait de l'un des plus petits budgets de la Ligue américaine, et il s'agissait pour lui d'identifier des joueurs sous-évalués, c'est-à-dire dont la valeur sportive...
Ils ne pouvaient pas se payer des joueurs très chers.
Exactement. Dont la valeur sportive est supérieure à leur valeur sur le marché. Et Billy Bean, le manager général, avait compris que recruter, évaluer les joueurs sur la base d'algorithmes était plus précis que se fonder sur les experts, ce qu'on appelle les scouts, c'est-à-dire ces professionnels...
Ces recruteurs professionnels.
Exactement, les recruteurs
alors,
professionnels.
Qu'est-ce qu'il a mis dans l'ordinateur ? Donc, au lieu de faire appel à un recruteur professionnel, de joueur, il a utilisé un ordinateur, et il a rentré dans l'ordinateur quelles données ?
Il a rentré les statistiques.
Les statistiques de victoires, de défaites.
Alors les statistiques individuelles des joueurs. Et parce que le baseball se prête particulièrement bien à ça. Le baseball est un sport statique.
Combien de points il a marqué, combien de points voilà, il a pris.
Exactement, qui donne lieu à beaucoup de statistiques, comme celle-ci. Et ce qui permet la possibilité de construire des formules assez complexes et qui donne lieu à une évaluation objective, statistique, mathématique des joueurs, plutôt qu'une évaluation basée sur une expertise.
Oui, vous citez par exemple le fait que le recruteur accordait de l'importance au physique des joueurs. Un joueur musclé, qui avait vraiment une bonne allure, on
Exactement.
Avait tendance à le prendre, alors que l'ordinateur, lui, ne regarde que les statistiques, les points. Et finalement, avec ces statistiques, le joueur au physique avantageux n'est pas forcément meilleur qu'un autre qui paraît un peu plus gringalet.
Exactement, on parlait tout à l'heure des effets de contexte, le fait que le jugement humain est influencé par le contexte, eh bien c'est exactement le cas ici. Un ordinateur, lui, ne prend en compte que l'information pertinente, alors qu'un humain sera influencé par des informations non pertinentes, en l'occurrence ici, l'apparence physique.
Vous citez d'autres exemples, qu'une étude a montré que les femmes musiciennes ont plus de chances d'être recrutées dans un orchestre symphonique lorsque les juges ne voient pas les candidates jouer, mais se fient uniquement à l'audition. C'est assez étonnant puisque, d'une certaine façon, le physique des musiciennes joue en leur défaveur. On pourrait croire qu'un physique avantageux serait un plus, et là, c'est l'inverse.
C'est vrai, mais en l'occurrence, ici, c'est ce qu'on appelle un biais de genre, c'est-à-dire le fait de privilégier un genre plutôt qu'un autre.
Alors, parfois, les hommes, les joueurs, les musiciens,
exactement.
Hommes, plutôt
exactement.
Que les musiciens, musiciennes.
Et le biais de genre, il s'exprime dans plein de domaines, la musique, par exemple, et en éducation, par exemple, il y a un biais de genre très célèbre, c'est le stéréotype suivant lequel les garçons sont meilleurs dans les disciplines scientifiques et les filles sont meilleures dans les disciplines
littéraires. Donc inconsciemment, les enseignants leur donnent de meilleures notes.
Exactement, exactement. Et donc, en l'occurrence, ici, c'est ça, c'est qu'il y a un biais psychologique qui nous fait penser de façon automatique que les hommes sont meilleurs musiciens que les femmes, ce qui fait que lorsque l'audition est réalisée de façon aveugle, c'est-à-dire lorsqu'on ne voit pas les candidats, eh bien, le biais ne peut plus exprimer puisqu'on ne voit pas les candidats et donc les musiciennes ont plus de chances d'être sélectionnées.
Et ce qu'on peut en déduire également, à vous entendre, c'est qu'un enseignant qui serait un ordinateur et qui se contenterait des résultats serait peut-être plus juste qu'un être humain qui donnerait des notes en étant influencé par soit le genre de la personne, soit par son physique, soit évidemment aussi par son apparence, la couleur de peau, ce genre de choses.
Exactement, on peut, dans l'idéal, alors après il y a beaucoup de bémols à cela, mais dans l'idéal, dans l'absolu, un algorithme, une intelligence artificielle est en principe plus immune à ses biais cognitifs qu'un humain.
Écoutons justement un exemple très célèbre de supériorité d'un ordinateur sur un homme, cette victoire en 2016 d'un programme informatique au jeu de Go sur le coréen Lee Sedol.
Anthony, évidemment, à fond derrière cette partie de Go historique entre un champion humain et un ordinateur moins humain. Eh bien, l'homme a sauvé l'honneur hier.
Oui, quand même. Alors, on a perdu l'ensemble de la partie, hein, parce que l'ordinateur a gagné les trois premières manches et ça se jouait en cinq manches. Mais quand même, l'humain, Lee Sedol, le champion du monde.
Roselyne Bachelot a affirmé que l'ordinateur était dopé. À voir.
C'est du mauvais esprit. C'est du mauvais esprit. En tout cas, cet humain, il a remporté une manche quand même hier. Donc il a sauvé l'honneur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la façon dont il l'a fait. C'est-à-dire que, comme il avait déjà perdu, il s'est dit, je vais tenter des coups très peu orthodoxe. On va essayer de déconcerter comme ça l'ordinateur.
Il a dérouté la machine.
C'est exactement ça et ça a fonctionné. C'était peut-être ça la faille finalement, c'est de jouer de façon très inhabituelle et ça a complètement désorienté la machine qui a abandonné.
Vincent Berthet, ça vous fait sourire hein, cette histoire, mais le joueur humain, Lee Sedol, il a réussi quand même à battre la machine au bout de plusieurs essais. Il a compris que la machine était quand même un peu bête finalement.
Il a réussi à arracher une victoire. Bon, sachant que, comme le résumé le rappelait, la victoire était déjà acquise par l'ordinateur, puisque c'était au meilleur des cinq matchs. Donc, trois victoires suffisent à l'emporter. Mais ceci dit, dans ces situations de jeu, le jeu de Go, le jeu d'échecs, l'affaire est pliée.
L'ordinateur est vraiment supérieur à l'humain.
L'humain peut arracher une victoire ponctuellement, occasionnellement, mais c'est quelque chose d'inéluctable.
C'est une question de mémoire, toutes les combinaisons possibles, l'ordinateur peut les mémoriser évidemment, mais pas l'humain. C'est cela ou c'est une question de stratégie ?
C'est une question de puissance de calcul avant tout. Et l'ordinateur peut évidemment déployer une puissance de calcul que le cerveau humain ne pourra plus jamais égaler, puisqu'elle est fixée. Le cerveau humain n'évolue plus au plan biologique. Donc l'ordinateur pourra toujours déployer une puissance de calcul et qui est exponentielle.
Vous dites dans votre livre, vous expliquez que, évidemment, donc effectivement, il faut admettre que l'ordinateur est supérieur à l'humain pour le jeu de Go, pour le jeu d'échecs. Mais ce qui est quand même assez rassurant pour l'humanité, c'est que en termes d'efficience, c'est-à-dire d'efficacité d'une certaine façon, l'homme est meilleur puisque l'ordinateur, lui, lui faut beaucoup d'énergie, une puissance de calcul nettement supérieure à cette énergie nécessaire pour un cerveau biologique d'être humain, puisque il suffit de l'équivalent en énergie d'une lampe de chevet, environ 20 watts pour un cerveau humain et beaucoup plus pour un ordinateur.
C'est ça, c'est que si on regarde le résultat final, il n'y a pas photo, l'ordinateur est meilleur que l'humain, mais en revanche, si on rapporte la performance au coût déployé, c'est-à-dire quelque chose qui s'apparente à un rapport coût-bénéfice, là, cette fois-ci, l'humain est beaucoup plus performant, puisque l'énergie déployée par un cerveau humain est sans commune mesure beaucoup plus faible que l'énergie qui est déployée pour mettre en œuvre la puissance de calcul de l'ordinateur.
Bon, ça nous rassure quand même d'une certaine
façon. On a toujours un avantage sur ce plan.
Mais ce qui est assez angoissant, c'est le pouvoir politique aujourd'hui de ce qu'on appelle les algorithmes qui ont envahi notre quotidien pour la santé, l'éducation, les politiques publiques, le recrutement. Il y a des entreprises où on fait appel à des ordinateurs pour recruter des employés. La bourse, on va y venir également. Expliquez-nous déjà ce qu'est un algorithme.
Un algorithme, c'est un ensemble de règles articulées qui produisent un output, c'est-à-dire un résultat, et qui le plus souvent est une décision. Et la différence entre ce système et le jugement, l'expertise humaine, c'est que l'algorithme fonctionne de façon mécanique, automatique, c'est-à-dire sans subjectivité, alors que le jugement humain repose par définition sur la subjectivité.
Il y a des domaines où aujourd'hui les algorithmes remplacent déjà de plus en plus les humains. Par exemple, vous citez le cas des radiologistes pour détecter la présence ou non d'une tumeur sur une radio. Les ordinateurs sont supérieurs aux humains, ils font moins d'erreurs. Donc ça veut dire que bientôt on n'aura plus besoin des radiologistes. Et il y a beaucoup de professions qui sont dans le même cas.
Exactement, c'est la profession de radiologue est une profession qui est typiquement menacée par l'automatisation des décisions, par les algorithmes, et il y a des raisons très précises à cela. L'œil humain peut détecter environ 30 niveaux de gris, un ordinateur peut détecter un nombre de niveaux de gris bien supérieur à cela. Donc lorsque on lit une radio, qui est fondamentalement une information en termes de niveau de gris, eh bien, en termes de diagnostic, c'est-à-dire pour détecter la présence ou non d'une tumeur, d'une anomalie, eh bien, in fine, un algorithme fera toujours mieux qu'un œil humain.
D'autres exemples, comme la psychiatrie, pour savoir si un agresseur récidiviste qui a des problèmes psychiatriques doit sortir ou non de l'hôpital, on utilise des ordinateurs. C'est quand même assez aussi effrayant, ça. Alors, est-ce que les ordinateurs font moins d'erreurs que les psychiatres ?
Alors, ça peut paraître surprenant, ça peut paraître effrayant, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais oui, la recherche scientifique l'a montré au travers d'un ensemble d'études. La probabilité objective, le risque de récidive à la sortie chez les délinquants, les agresseurs sexuels, est mieux prédit par une formule, par un algorithme, que par l'expertise d'un psychiatre. C'est ce qu'on appelle les échelles actuarielles, qui sont très largement utilisées dans les pays anglo-saxons, notamment au Canada.
Et pour le recrutement, là, excusez-moi d'employer ce mot plusieurs fois, mais je pense que je me fais aussi le reflet de la pensée de beaucoup d'auditeurs, c'est encore plus effrayant pour le recrutement dans les entreprises, utiliser un ordinateur pour prendre une décision, est-ce qu'on embauche ou pas cette personne, plutôt qu'un entretien en tête-à-tête, on fait appel à une machine.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle le recrutement prédictif. Il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans cette activité.
Donc ça existe, ça se fait actuellement dans certains pays. En France, ça se fait ?
En France, par exemple, effectivement, il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans ce secteur.
On dit en général que c'est une aide à la décision humaine, mais que ça ne remplace pas l'humain.
À ce stade, ces outils sont effectivement des outils d'aide à la décision, en l'occurrence pour les recruteurs. Mais se pose la question, à terme, de la substitution des experts par ces algorithmes.
Et pour le recrutement dans les entreprises, donc là, est-ce que vous dites qu'ils font moins d'erreurs dans le sens, bon, embaucher la mauvaise personne, enfin en tout cas être plus ou moins juste ?
Alors ici, la difficulté consiste à quantifier cette erreur, mais si on dispose d'indicateurs objectifs, consensuels, et que l'on peut définir et quantifier cette erreur, les algorithmes font la plupart du temps, au moins aussi bien que les humains.
Partons maintenant à la bourse. La bourse, donc le sort économique d'un pays, voire du monde, là aussi, les traders, pour acheter, vendre, utilisent des ordinateurs, et même les ordinateurs remplacent les êtres humains.
Effectivement, un très grand nombre de décisions dans le domaine du trading sont automatisés, et ce depuis longtemps en fait. Ce qui laisse aux traders, aux spécialistes, aux experts la possibilité de se concentrer sur des tâches qui requièrent une vraie expertise humaine et qu'on ne peut pas à ce stade automatisé.
Mais est-ce qu'on peut avoir des catastrophes économiques, des désastres boursiers dus à une mauvaise utilisation des ordinateurs ?
Alors, à ce stade, mon opinion à moi, c'est que les crises financières, économiques qui se sont produites jusqu'à aujourd'hui étaient plus le fait de décisions humaines que de décisions automatisées. Donc, l'avenir dira si les algorithmes produiront à leur tour des erreurs et si ces erreurs sont du même ordre des erreurs qui sont dues aux humains. Mais à ce stade, les crises économiques que l'on a connues étaient bien le fait de personnes.
Mais il y a une discipline à part entière que vous appelez la finance comportementale. De quoi s'agit-il exactement ?
La finance comportementale, c'est une branche de la finance qui a incorporé l'apport des sciences du comportement. Et cette discipline a été récompensée notamment par un prix Nobel en 2013,
ouais, mais là,
Robert Shiller.
Mais là, elle fait intervenir l'humain, d'une certaine façon, puisqu'elle réintroduit les sciences du comportement.
C'est vrai, elle réintroduit l'humain pour s'opposer au modèle standard fondé sur l'agent rationnel, l'homo economicus. Et introduire cette part d'humain permet de comprendre ce qu'on appelle des anomalies de marché, c'est-à-dire des phénomènes financiers, boursiers, que l'on ne peut pas expliquer, que l'on ne peut pas prédire sur la base des modèles économiques classiques.
Donc déjà que la bourse a tendance à s'emballer parfois de manière totalement irrationnelle, l'ordinateur lui aussi peut quand même s'emballer de la même façon. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe, même en remplaçant tous les humains par des ordinateurs.
Alors c'est possible. probablement moins, probablement qu'on observera moins ces phénomènes irrationnels, entre guillemets, mais les bulles spéculatives sont par exemple typiquement quelque chose de, qui est dû à la psychologie humaine.
Donc ce qui est intéressant dans votre livre, hein, dont je rappelle le titre, L'erreur est humaine, c'est qu'on aborde vraiment tous les domaines. On a parlé de la santé, là on a parlé de la bourse, maintenant parlons du domaine judiciaire.
Imaginez que vous vous rendez chez un avocat au sujet d'une nouvelle affaire. Cet avocat, aidé d'une intelligence artificielle, vous donne précisément vos probabilités de succès devant un tribunal, vous donne le montant des indemnités que vous seriez susceptible de toucher. Il s'agit du domaine de la justice prédictive.
La justice prédictive, c'est un son du Parisien TV. Donc, ce que ça veut dire que les juges peuvent commettre des erreurs en libérant, condamnant, en donnant une peine inappropriée. Et donc, on va les remplacer, eux aussi, par des machines qui vont commettre moins d'erreurs. Vincent Berthet.
Oui, alors, ce qui a ouvert le champ à ce qu'on appelle aujourd'hui la justice prédictive, c'est le fait de rendre la jurisprudence publique. Et la jurisprudence, c'est une formidable base de données, c'est-à-dire l'ensemble des décisions juridiques rendues par le passé. Et lorsque les...
Donc tout ça est stocké dans une machine, dans un ordinateur, dans un disque dur.
Exactement.
Et quand on a un procès, on va faire appel à cette banque de données.
Exactement. Donc des chercheurs, en collaboration avec des juristes, ont construit des algorithmes qui scannent la jurisprudence, c'est-à-dire sur une question juridique précise, par exemple le calcul de montant d'indemnité dans le cadre d'un contentieux en droit du travail. Ces algorithmes scannent la jurisprudence et permettent, donc sur la base de l'ensemble des décisions juridiques passées, de faire une prédiction précise, et c'est ça qu'on appelle la justice prédictive. Aujourd'hui, ces algorithmes se présentent comme des outils d'aide à la décision, et pour les avocats d'anticipation, et donc de calcul de risque pour le client. Mais à nouveau se pose la question aujourd'hui de la substitution progressive du juge par ces algorithmes.
Si c'est une aide, tant que cela reste une aide, après tout, pourquoi pas ? Au lieu d'aller compulser des volumes dans une bibliothèque, on va regarder dans une mémoire d'un ordinateur. Mais le problème, c'est quand, si l'ordinateur, lui, remplace, et vous dites qu'on est en train d'y venir.
Alors, pour le moment, dans le domaine du droit, on en est très loin. On en est très loin, d'autant plus qu'une expérimentation a été mise en œuvre dans les cours d'appel de Douai, et puis une autre. Et les magistrats ont conclu cet essai comme non concluant. C'est-à-dire n'ayant pas de valeur ajoutée par rapport au dispositif qui existe déjà.
Donc les juges remplacés, les avocats remplacés par des ordinateurs,
il y a encore
de la marge. L'erreur est humaine, avec Vincent Berthet autour de la question. Lilywood and the Prick, Mistakes. I've been this way for a while, and people pass by, and I see it's already midnight, I'm asking why, and wondering how. But your mouth stays shut like always. It all gets dark, it all gets wild, and I'm trying to grab onto something with no one left, not a single friend. And your eyes, they close like always. I know you want me to écoutez Autour de la question, nous nous interrogeons sur les causes, les origines de l'erreur que nous faisons tous, les erreurs que nous faisons tous avec notre cerveau et les erreurs que font moins les machines et les ordinateurs avec Vincent Berthet, chercheur en sciences cognitives. Vincent Berthet, vous parlez, vous abordez différents domaines, notamment, on l'a vu, la bourse, le domaine de la santé, la vie de tous les jours et aussi les politiques publiques, par exemple pour le don du sang, pour la gestion des crèches, ce genre de choses. Notre cerveau fait des erreurs et les pouvoirs publics peuvent utiliser ces erreurs. Expliquez-nous de quelle façon.
Exactement. Alors c'est ce qu'on appelle quelque chose qui a beaucoup été commenté ces dernières années. C'est ce qu'on appelle les nudges.
C'est-à-dire
le nudge, c'est ce qu'on. Alors il y a pas de mot équivalent en français, mais c'est ce qu'on. La meilleure traduction, ce serait coup de pouce. Le nudge, c'est un coup de pouce pour orienter le comportement des individus dans une certaine direction. Par exemple, les inciter à manger plus sainement, les inciter à rouler plus lentement, les inciter à épargner davantage pour leur retraite dans les pays qui ont un système de retraite par capitalisation. Et donc les politiques publiques, depuis la publication de l'ouvrage de Sunstein et Thaler en 2008, les pouvoirs publics se sont emparés de cet outil pour les utiliser dans la politique publique.
Mais quel rapport avec l'erreur ? Par exemple, pour rouler plus lentement. Donc il ne suffit pas de dire il faut rouler plus lentement, puisque rouler vite augmente le risque d'accident, donc rouler plus lentement, vous avez moins de risque d'accident. Ça ne suffit pas. Donc, quelle erreur de notre cerveau on va utiliser ?
Exactement. Alors, sur cet exemple concret de comment faire en sorte que les conducteurs roulent moins vite, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité classique, c'est ce qu'on appelle les incitations économiques, c'est faire payer une amende au conducteur lorsqu'il roule trop vite. La deuxième solution, c'est la régulation, c'est-à-dire mettre en place des obligations qui font que voilà, si vous roulez trop vite, vous êtes sanctionné. Et puis, il y a une alternative qui peut tirer profit des erreurs, et en l'occurrence des biais cognitifs, quelque chose qui avait été mis en place dans la ville de Chicago, dans une portion de route en bordure de lac, qui produisait un grand nombre d'accidents. Ce nudge consistait à exploiter une illusion visuelle. On avait tracé au sol un marquage particulier qui crée une illusion visuelle donnant l'impression au conducteur de surestimer leur vitesse.
Donc des bandes
perpendiculaires
au marquage, à la route, mais de plus en plus rapprochées.
De plus en plus rapprochées.
Ce qui fait qu'on a l'impression d'aller de plus en plus vite,
voilà.
Même si on roule à la même vitesse.
Exactement.
C'est une illusion d'optique.
C'est une illusion.
Donc une erreur de notre cerveau.
Exactement.
Mais qui donne l'impression d'aller plus vite qu'en réalité.
Que la vitesse réelle, et qui fait ralentir les conducteurs parce qu'on se dit je roule trop vite. Et c'est un moyen, donc une alternative qui exploite une illusion visuelle, un biais cognitif, et qui amène au conducteur.
Donc c'est assez malin, et en plus on ralentit naturellement sans avoir de PV. Donc voilà, un nudge, un coup de pouce.
Un nudge, un coup de pouce qui ne force
utile.
Pas, qui ne contraint pas les individus, mais qui les fait se comporter dans la direction souhaitée.
Un autre exemple avec les crèches, c'est assez amusant, racontez-nous cette anecdote des crèches pour éviter que les parents arrivent en retard.
Oui, ça, c'est une étude que les économistes connaissent bien pour montrer l'effet limité des incitations monétaires. Un directeur de crèche commençait à être embarrassé par le nombre croissant de parents qui arrivaient en retard pour récupérer leurs enfants. Et pour les inciter à arriver à l'heure, il avait mis en place une amende qui consistait à payer pour les parents 1 euro par tranche, par 30 minutes, toutes les 30 minutes de retard. Et à sa grande surprise, ce directeur de crèche s'est rendu compte que, au contraire, la mise en place de cette amende produisait l'effet opposé, c'est-à-dire que les parents arrivaient encore plus en retard.
Bah là, c'est pas un bon nudge, finalement, c'est pas un bon coup de pouce, puisque ça a eu l'effet inverse.
Exactement, ça a eu l'effet inverse.
Un contre-exemple.
Voilà, parce que au final, les parents se disaient que ils étaient décomplexés par rapport au fait d'arriver en retard, puisqu'ils payaient une amende pour cela. Et cet exemple montre que au final, le comportement comportement humain est toujours complexe et que si on veut trouver des moyens d'action réellement efficaces, eh bien, il faut avant toute chose, il faut comprendre le comportement.
Oui, là, dans ce cas-là, les parents étaient déculpabilisés d'arriver en retard. Exactement. Puisqu'ils payaient. Autre exemple, don de sang. Vous donnez aussi exemple parce que tout est étayé par des études. Hein, pour le don de sang, si on rétribue les gens, on a moins de dons de sang.
Exactement. Le fait de payer les donneurs en les rémunérant, paradoxalement, diminue le nombre de donneurs. C'est ce qu'on appelle un cas où la motivation n'est plus de même nature. Les donneurs de sang le font sur la base de ce qu'on appelle une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils le font par générosité, par humanisme. Et si on les paye pour cela, leur motivation devient extrinsèque, c'est-à-dire ils le font en vue d'une récompense. Et c'est ce qu'on appelle un effet d'éviction, c'est-à-dire que la motivation extrinsèque va évincer la motivation intrinsèque. C'est-à-dire que les gens se disent, à partir du moment où je suis payé pour faire quelque chose, je le fais plus parce que je le fais plus pour des raisons pour lesquels je le faisais à la base, c'est-à-dire
quel est le rapport Oui, au départ, ils étaient désintéressés, et là, ils ont l'impression d'être moins désintéressés, donc ils ne vont plus le faire. Mais quelle est l'erreur là-dedans, puisque votre livre parle de l'erreur, et vous donnez cet exemple.
Alors ici, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment une erreur. C'est des exemples que je donne pour illustrer la complexité du comportement humain. Et à nouveau, pour mettre en place des dispositifs, des actions qui soient réellement efficaces, eh bien, il faut avant tout comprendre le comportement humain dans toute sa complexité.
Revenons quelques instants sur les algorithmes. Il y a aussi beaucoup de risques. Ces algorithmes qui sont utilisés, on l'a vu, pour la justice, pour les recrutements, pour la santé, et des risques pour la démocratie également, et puisqu'ils sont utilisés pour des intérêts privés, la plupart du temps pour des assurances, ce genre de choses.
Exactement. En fait, ici, la séparation entre le secteur public et le secteur privé s'impose à nouveau. Dans le secteur privé, toutes ces technologies, les algorithmes prédictifs, sont utilisés depuis bien longtemps, parce que le secteur privé ne se pose pas toutes ces questions éthiques que le secteur public se pose tout à fait à raison et légitimement.
Donc même s'ils font moins d'erreurs, les ordinateurs, ils sont quand même dangereux pour la démocratie. C'est quand même ça aussi qu'il faut avoir
exactement,
en tête sans cesse.
Exactement. Et au final, ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que cette question des algorithmes, de l'automatisation des décisions, doit toujours s'accompagner d'une réflexion éthique et d'une réflexion humaine.
Juste en guise de conclusion, alors vous qui travaillez sur les erreurs, chercheur en sciences cognitives, est-ce que de travailler sur les erreurs, cela vous aide à faire moins d'erreurs dans votre vie de tous les jours personnellement?
Très honnêtement, non. C'est comme lorsqu'on est victime d'une illusion visuelle, lorsqu'on connaît le truc, on connaît la raison, on en est toujours victime.
Donc alors, je ne sais pas si nous allons faire moins d'erreurs après la lecture de votre livre, mais en tout cas, c'est passionnant. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Vincent Berthet, « L'erreur est humaine », avec pour sous-titre « Aux frontières de la rationalité ». Et c'est aux éditions du CNRS. Vincent Berthet, merci.
Merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
C'était Autour de la question avec Hugo Violas à la réalisation et Sophia Bédard en coulisses. Portez-vous bien, merci de votre fidélité et dans quelques instants, les infos sur RFI.